Alors, le comité est très puissant, n'est-ce pas? Et selon la convention, on demande aux pays, aux États parties, d'envoyer les professionnels au comité, parce que c'est les jugements un peu professionnels qu'il faut faire. Et à travers les années, les chefs de délégation deviennent de plus en plus les ambassadeurs de l'UNESCO et autres. Autrement dit, c'est le côté politique de la convention. C'est certain que c'est un traité international. Alors, je ne sais pas si vous avez un point de vue sur l'idée de la balance entre une vue professionnelle, une participation professionnelle, une participation politique au comité.
Moi, je suis absolument en faveur d'avoir toujours une information en profondeur professionnelle. Mais la décision doit être politique. Je dois avoir cette contribution qui doit être d'autres qualités techniques. Mais après, c'est les critères, c'est les concepts de justice, de créativité historique, etc., qui doit finalement décider. Donc, bref, doit être la politique. J'ai un concept de la politique extraordinaire, comme vous voyez. Pour moi, la politique, ce n'est pas dire les petites politiciens ou les non, au contraire. Moi, je pense que la policy, la politique en général, c'est la capacité qui doit précisément distinguer une organisation comme l'UNESCO. Elle doit prendre des décisions politiques avec une grande information, mais elle doit tenir compte de toutes les différentes dimensions et pas seulement les différents purement techniques. Parce qu'autrement, nous n'aurions pas besoin d'avoir toutes ces... Il faudrait demander seulement un rapport technique à de très bonnes institutions techniciennes. Et comment, c'est merveilleux. Moi, je voudrais vous dire, moi, j'aime beaucoup regarder ce qu'il dit et comment. Mais après, c'est une vision politique qui doit finalement prendre la décision finale. Je me rappelle à Santa Fe. C'était le moment dans lequel j'avais eu des conversations avec le roi Sihanouk.
Avec qui?
Le roi Sihanouk,
okay,
de ça. La Cambodge.
Oui, oui, oui.
Et comme vous savez, c'était un grand danger, cet immense, parce que c'est fabuleux. La culture khmer était vraiment de ce point de vue, de la grandeur. De la capacité des sculptures était merveilleuse. Mais il y avait un énorme marché, comme vous voyez partout, de les pièces. On coupait la tête à toutes les... Et à ce moment, c'est moi qui est intervenu comme directeur général de l'UNESCO. Et j'ai utilisé les prérogatives du directeur général parce que oh, nous allons attendre maintenant. C'est fini. Ici, on n'attend rien. J'ai les éléments suffisants pour vous dire que ou bien les comités déclarent patrimoine mondial encore BAT, et encore en général, ou bien sera moi directement, le directeur général, qui déclarera ce patrimoine en danger, parce que j'ai la possibilité de le faire, parce que je pense que nous ne pouvons plus attendre que les professionnels donnent ces données, parce qu'entre-temps, il y aura, parce qu'il y avait déjà un marché brutal, et surtout aller vers la Thaïlande et beaucoup de pièces vers les États-Unis, j'ai dit ça, c'est fini. Donc, c'est pour vous dire que je pense qu'il faut avoir toujours une grande contribution professionnelle, purement artistique, culturelle, de grandes institutions, et j'ai une grande confiance en Icomos, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que c'est à eux de prendre la décision. Il doit avoir toujours un équilibre. Mais jamais passer seulement les aspects strictement techniques sur ce qui doit être finalement la décision, que c'est la décision de la politique culturelle à l'échelle mondiale. C'est la responsabilité de l'UNESCO. Il faut l'exercer.
Vous étiez très clair tout à l'heure que vous croyez que c'est le pouvoir du directeur général de l'UNESCO de déclarer un bien en péril. Depuis 1988, qui est le débat sur Kakadu en Australie, le gouvernement australien a monté toute une défense pour dire que c'est si l'État parti n'est pas d'accord, que le comité n'a pas le droit, et par implication, le directeur général n'a pas le droit de déclarer un bien sur la liste en péril sans l'accord de l'État parti. Alors, je ne sais pas...
Ça, c'est typique des systèmes autoritaires. Ils seulement souhaitent le parti que leur convient, mais quand arrive le moment de dire, écoutez, si vous ne gardez pas cette caution et cette sauvegarde dans les meilleurs niveaux, à ce moment, on peut dire, ah non, parce que vous avez besoin. Non, jamais. Je pense que les États membres de l'UNESCO doivent savoir qu'il y a précisément des questions institutionnelles qui vont au-delà des souhaits des États membres. Autrement, écoutez, quand l'Union soviétique, si on aurait suivi cet système que vous me dites maintenant, aurait été épouvantable. Donc, il a fallu parfois avoir des collisions très fortes, mais c'est très clair. Et concernant Jérusalem, et concernant en général les 100 lieux, avec Karel Vasak, c'est un grand... C'est, à mon avis, c'est la personne vivante avec Stefan Hassel qui vraiment est à l'origine de pas mal de les droits de l'homme. Nous avons rédigé, il fait déjà 4 ou 5 ans, un système de protection, de sauvegarde de les 100 lieux. Et nous avons envoyé ça à Israël, à la Palestine, les Palestiniens. Nous avons envoyé ça au Quartet pour qu'on puisse l'utiliser si on le veut, parce que nous pensons qu'on pourrait, dans ce cas, en général, peut-être maintenant en particulier dans le cas de le Proche-Orient, mais après qu'on pourrait élargir ça, le moment dans lequel on dirait, voilà, étant donné que maintenant il y a ce danger, on déclare que cet patrimoine, pendant que la situation de conflit va être présente, on peut les protéger par une institution internationale, que serait le comité lui-même ou que serait le... Donc, moi, je pense que c'est un rôle qui est spécifique du comité et que c'est au directeur général de défendre quand arrive le moment, parce qu'on ne peut pas dire « Ah non, si nous ne sommes pas d'accord, écoutez, vous devez accepter que parfois vous n'êtes pas raisonnable du tout et que donc il faut prendre les mesures qui s'imposent. »